Mariage de sang.
Le cadavre est encore chaud. Dans le miroir de ses yeux vides, les reflets d'or des artefacts scintillent. Victoire, elle, se souvient. Tout a commencé avec cet air d'opéra, un air que l'homme sans regard écoutait souvent. Les notes dansent sur le parquet patiné de la salle de bal déserte. Recluse dans un coin d'ombre, Victoire attend l'entracte, durant lequel la foule s'égaillera autour des buffets aux pieds ouvragés, ses pépiments sans queue ni tête couvrant aisément le message qu'elle est venue transmettre, ou plutôt l'appel à l'aide. Néanmoins, l'envoyée de la Société des vieilles têtes à long chapeau préfère s'imaginer en messagère plutôt qu'en nécessiteuse. Une mendiante à l'opéra. Voilà qui ferait un bon titre d'opéra comique, songe-t-elle avec amertume. Et pour cause, elle ne goûte pas la situation. Le seul homme capable de l'aider à résoudre son petit problème de hantise est précisément l'un de ceux qu'elle combat d'ordinaire. Un alchimiste qui pille, qui torture, qui tue et qui sacrifie son humanité sur l'autel de la puissance et de la richesse. L'un de ceux qui rendent le monde pire et non meilleur. Tout à fait le type d'énergumène qui a jadis emprisonné un puissant esprit égyptien dans un artefact du Louvre, esprit avec lequel Victoire se retrouve coincée depuis qu'elle a voulu le détruire. Avec le manque de succès que l'on sait, assène-t-elle en sa propre pensée, sachant très bien que l'esprit qui la hante se délecte de la moindre miette. Le temps passe, l'heure vient. L'opéra s'interrompt et la première vague de bonnes gens bien sapées s'échoue sur le rivage des buffets de petits fours et de grandes boissons. Les plumes de chapeau chatouillent les orteils des statues de marbre. Des moustaches gominées se retournent dans le reflet des miroirs, sous l'œil averti des précieux messieurs en costume noir. On caresse les ailes des nœuds papillons, on tire sur les cravates récalcitrantes, on dresse les drapés et l'on défroisse les froufrous. Dans la foule, Victoire repère son malandrin. Il n'est ni plus ni moins décoré que les autres. Cependant, il irradie d'une aura magique si intense qu'elle surpasse la lueur dorée des candélabres. Victoire se dirige vers lui, et, sitôt qu'il la reconnaît, il recule. Et, fort naturellement, s'enfuit. Prévisible, soupire Victoire en prenant elle aussi la tangente. Presque sans effort, elle le rattrape à la porte de service. Victoire pose la main sur la poignée quelques secondes avant l'homme et lui ouvre la porte en proposant d'un ton diligent. « Et si nous prenions l'air ?» Ce faisant, elle tire une cigarette de la manche de son blouson de cuir. L'orfèvre, aux airs de vieux riche des Kati, considère l'offre de trêve avec un air sceptique, puis la saisit entre des doigts fins qui ne tremblent pas.
« Je vous écoute. »
dit-il une fois dehors. « J'ai besoin de votre aide, » répond alors Victoire, « pour une dépossession alchimique. »«
Vous, la meilleure traqueuse des vieilles têtes, a besoin de mon aide, alors que vous tuez tous ceux qui me ressemblent ? Allez vous faire foutre. »«
Vous êtes sûr ? Vous y gagneriez l'un des esprits les plus puissants parmi les alchimistes égyptiens de son temps. » Elle murmure à l'oreille du vivant le nom du défunt. L'orfèvre frémit des moustaches et se redresse, le regard luisant.
Vous en êtes sûre ?
Certaine, et je préfère le confier à quelqu'un capable de le contrôler plutôt que de rester coincé avec lui jusqu'à la fin de mes jours.
Il nous écoute, là, en cet instant ?
L'esprit reste silencieux, mais Victoire le sent sinuer sur sa peau. Très certainement, oui.
Oh.
Il est intéressé. L'esprit ricane. Victoire se retient de répondre à cette provocation. Plus elle lui accorde d'attention, plus il aura d'emprise. Or, elle tient à garder la tête froide et libre. Il ne se passe pas une seconde sans qu'elle lutte pour éviter d'être possédée. Sa résistance naturelle à la magie tient le coup, mais pour combien de temps encore ? L'alchimiste accepte. Ils marchent ensuite dans la nuit parisienne et s'en vont loin des lumières de l'opéra. Ils marchent, jusqu'au cœur des catacombes, sur un chemin non répertorié, puis parviennent dans une anfractuosité oubliée. Sous le regard des crânes aux orbites sombres et à la chevelure de cire fondue, un petit trou de rat de bibliothèque se dévoile, avec quelques étagères, du matériel alchimique et une étrange odeur de lavande. Dans un coin, derrière un paravent, un lit de camp, une épaisse couette et une tour de pisse de tasses de thé ébréchées, au fond noir séché par le temps, laissent entendre une occupation quasi permanente. Victoire a imaginé un lieu plus riche, moins chiche, surtout pour un homme capable de transformer le plomb en or. À moins que cela ne soit une légende, savamment entretenue pour attirer le chaland, une vitrine en quelque sorte. L'alchimiste écarte le désordre qui recouvre l'unique table, puis extirpe des objets d'un coffre en décrivant leur nature.
Une boîte taillée dans le bois d'un arbre abattu par la foudre, au rebord cerclé de fer, et du sel d'Himalaya, récolté dans les conditions particulières que requiert l'alchimie.
Autour de Victoire, il dessine un cercle avec le sel, puis dit
« Bon, si cela ne suffit pas, rien ne pourra retenir cet esprit. »
L'esprit ricane à nouveau. Victoire frémit. L'alchimiste ajoute.
« Y a-t-il quelque chose que je dois savoir, avant que vous ne le convoquiez parmi nous ?»«
Il est déjà là. » voudrait-elle articuler. Mais à la place, elle répond en sortant le couteau auquel l'esprit est rattaché. Il se cache dans les reflets. Il suffit de l'empêcher de se réfracter quelque part et, normalement, c'est bon. Mais ne regardez pas le couteau. Vous y finiriez lié à la chose comme moi je le suis. L'alchimiste acquiesce quand, soudain, ses yeux gris s'écarquillent de surprise. Il recule d'un pas. Un puissant courant d'air balaye sel et boîte, qui s'embrase dans un nuage de cendres noires et de feu. L'alchimiste tombe en arrière, puis le silence se fait. Victoire s'approche, se penche, couteau en main malgré tout. L'air d'opéra lui revient en tête. Le cadavre hoquette, ses yeux se ferment et, de grisailles vides, se font fournaises ardentes, aussi luisant qu'un rubis baigné de lumière. « Démon, » dit Victoire, pourtant défaite.
« Pas exactement, »
répond le concerné d'une voix aussi rocailleuse que les pentes de l'Himalaya, dont il a incendié le sel.
« As-tu un verre d'eau ? La possession a tendance à déshydrater terriblement les hôtes. Je me croirais revenu au cœur du désert blanc, à des lieux de la moindre oasis.
Tu es drôlement devenu bavard.
J'ai des raisons de l'être. Tu fais de la magie très puissante, dont tu ne t'aperçois même pas. Et tu m'as tenu muselé pendant des semaines. J'en ai ras, l'ectoplasme, d'être collé à ce couteau et de ne pouvoir parler qu'à toi. Au moins, au Louvre, avant que tu me trouves, j'étais endormi. Alors c'est bon, tu as gagné, je te sers. Mais pitié, libère-moi, donne-moi ce corps, et je vivrai sans tuer ni torturer. Une vie normale, de celle que tu protèges.
Victoire cherche le piège. Il y en a forcément un. Si elle en croit ses paroles, c'est elle qui le retenait. C'est quoi cette histoire encore ? Peut-être aurait-elle dû demander l'aide de Salomé Yohanan plutôt. Mais la fière Victoire n'a pas osé le faire. Elle, qui n'a jamais besoin d'aide, a préféré se draper dans sa fierté. « Faisons un pacte, » exige-t-elle. « Je veux une promesse alchimique. »«
Nous resterons liés ?»«
Oui, mais tant que tu tiendras ta promesse de te tenir tranquille, tu seras libre. Et si tu la romps, je le saurai. Je reviendrai t'enfermer dans ce couteau, » précise-t-elle, sans la moindre idée de comment s'y prendre. L'alchimiste, aux yeux rouges, demeure un instant songeur. Puis s'ouvre brusquement la main avec le couteau que Victoire tient toujours entre eux.
D'accord, marché conclu.
Ils scellent leur promesse dans le sang, le sel et la limaille de fer. La promesse de deux assassins repentis, tous deux hantés par leur plus ancien cauchemar, unis pour le meilleur et pour le pire.
C'était Mariage de sang, un conte dans l'univers de la Société des vieilles têtes à long chapeau. Écrit et narré par Cécile Duquesne, avec la participation de Vincent Corlet. Mise en son par Vincent Corlet. Une production signée Georges Fauveau et Vincent Corlet pour l'association Son mot à dire.